Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À quelques heures des fêtes de fin d'année, si vous cherchez encore un cadeau à offrir, voici l'un des plus beaux livres que vous pouvez trouver. Non seulement un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, à savoir le portrait de Dorian Gray, le roman d'Oscar Wilde, mais ici dans une version intégrale et magnifiquement illustrée par notre invité aujourd'hui. Bonjour Benjamin Lacombe.
Bonjour.
On connaît votre goût pour la remise en lumière des classiques, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, La Petite Sirène ou encore Notre-Dame de Paris, entre autres nombreux albums que vous avez publiés. Mais ici, vous développez très officiellement une nouvelle collection chez Gallimard, dans laquelle s'inscrit le portrait de Dorian Gray ainsi que Carmen de Prosper Mérimée ou encore Les Sorcières de Venise de Sébastien Pérez, des titres rassemblés sous l'intitulé Papillon noir, créé et dirigé par vos soins. Racontez-nous le principe de cette série toute naissante.
C'est la première collection de livres illustrés pour adultes des éditions Gallimard, en dehors de la collection Blanche, qui est une collection d'ouvrages de livres d'artistes. Et l'idée, c'était de travailler autour de ce rapport entre le texte et l'image et combien il pouvait amener à des lectures et des sensations de lecture tout à fait nouvelles, à la fois par le rapport d'image et de texte qui va muter au fur et à mesure du récit, puisque ce sont pas des livres qui sont illustrés de manière classique, ce sont des livres qui abordent tous les registres de l'illustration, c'est-à-dire la bande dessinée, graphic novel, l'esquisse, la peinture, les illustrations plus narratives, celles qui sont plus métaphoriques ou évocatrices, les jeux de fabrication, c'est-à-dire tout qui peut concourir à une forme de lecture où l'image et le texte se répondent d'une manière nouvelle. Et donc, quoi de mieux pour évoquer ces métamorphoses qu'un papillon qui lui-même est un symbole, voilà, de renouveau et de métamorphose.
Mais un papillon noir.
Alors un papillon noir, parce que dans nos époques contrariées, j'ai voulu trouver un symbole qui reflèterait un petit peu l'époque. Et c'est vrai que ce papillon, c'est le phalène du boulot, c'est le phalène noir. C'est un papillon qui va se métamorphoser en papillon, mais surtout qui va se transformer au fur et à mesure des années à cause de l'industrialisation, va revêtir une robe noire pour se cacher des prédateurs, car à cause de l'industrialisation, la suie avait envahi les bouleaux, les avait assombris et ils devenaient des proies faciles. Et donc ces papillons, au fur et à mesure des années, vont se teindre de noir. Et j'ai trouvé cette idée d'adaptation, de résilience formidable, et avec en plus cette idée de l'ombre et de la lumière qui m'est chère.
Donc ici, perle noire de cette collection, le portrait de Dorian Gray, qui est le grand roman de l'écrivain irlandais Oscar Wilde, né à Dublin en 1854 et mort à Paris en novembre 1900, un auteur iconique désormais, mais qui pourtant a fait scandale en son temps, au point même d'être incarcéré. Et d'ailleurs, en amont, au milieu et en aval du texte, vous illustrez Benjamin Lacombe avec des planches couleur sépia, l'histoire vraie de la jeunesse du roman, de l'histoire d'amour de l'auteur avec un autre homme et de sa condamnation pour outrage aux bonnes mœurs. Nous y reviendrons. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement, dans ce roman ? Et peut-être, d'ailleurs, faut-il dire quelques mots de l'histoire, si vous voulez bien, Benjamin Lacombe ?
C'est une histoire très singulière, puisque ça nous entraîne à un moment aussi à laquelle elle a été écrite, c'est-à-dire dans l'Angleterre victorienne. C'est une histoire éminemment transgressive, puisqu'en fait, elle compte l'histoire d'un très beau jeune homme qui n'a pas encore tout à fait conscience de sa beauté au début du livre, et puis qui va croiser le chemin de deux hommes. Basil Hallward, qui est un peintre, qui va être absolument abasourdi, émerveillé par sa grande, grande beauté, qui va vouloir la figer dans un portrait, qui va peindre avec ferveur et qui va donner sa plus grande œuvre, une œuvre que tous et chacun reconnaîtront comme un chef-d'œuvre absolu qui a capturé la vie, en fait, et la beauté absolue de Dorian. Et un hédoniste, l'ordre
Henry,
qui lui va pousser Dorian à profiter de cette jeunesse et de cette beauté qui est incandescente, mais qui est aussi
éphémère.
Et donc de profiter de la vie, profiter de ses charmes et le pousser quelque part vers des chemins un peu plus sombres, tortueux. Et Dorian va se laisser séduire à cette idée et, comme un pacte faustien, va rêver de voir sa jeunesse perdurer comme dans le portrait. Et quelque part, on ne sait quoi, va l'écouter. Et c'est le portrait qui vieillira à sa place. Et alors commencera une sorte de double vie, c'est-à-dire la vie publique, celle où sa nature, sa beauté reste parfaitement intacte, et sa vie intérieure où le monstre en lui grandit à mesure que le portrait lui-même emporte les stigmates.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce texte, écrit il y a plus de 125 ans d'ailleurs ?
Ce que j'aime, c'est sa modernité et à quel point il nous parle de la nature humaine, cette quête de la beauté. Je pense qu'au XXIe siècle, je crois que vraiment, on n'a pas de doute sur le fait qu'elle obsède beaucoup, beaucoup de nos contemporains. Cette idée de jeunesse éternelle, même il y a des études qui ont donné à voir qu'il y avait le privilège du beau, c'est-à-dire qu'on écoutait plus les gens beaux, ils avaient des promotions plus faciles, la vie concrètement est plus facile pour les gens qui ont une certaine forme de beauté. Et d'un autre côté, la beauté peut être suspecte aussi, elle peut créer de la jalousie. Donc quelque part, l'enveloppe finit par définir beaucoup, beaucoup, alors que chacun le sait aussi, on peut être très différent de l'image qu'on projette. Donc cette idée-là, elle est éternelle. Et puis, il y a cette idée de la schizophrénie, c'est-à-dire que on a un personnage qui a une apparence angélique, sublime, intacte, et qui n'est pas cette personne, et qui doit vivre avec cette enveloppe. Et cela, je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux, où on crée quelque part des avatars de nous-mêmes qui sont souvent bien plus parfaits que nous, par usage de filtres, de photos, de bons angles ou de sélection simplement de photos, je pense que cette schizophrénie, elle peut arriver en particulier peut-être pour les plus jeunes des utilisateurs de ces méthodes.
Alors c'est un roman total parce qu'il nous parle de la société, il nous parle de la morale, il nous parle de philosophie. C'est un roman fantastique, comme vous venez de l'évoquer, avec ce pacte avec une entité surnaturelle. Et c'est un roman aussi dérangeant, puisqu'à sa publication, en effet, et sa traduction en français, le texte a été censuré. Et là, heureusement, avec Xavier Giudicelli, le traducteur, vous réparez cette erreur, puisque dans la traduction originale de Jean Guliano, sont rajoutés, dans une typographie un peu plus claire que le texte, les parties qui avaient été enlevées. Vous rendez justice au texte.
Alors j'espère le faire, et c'était quelque chose d'assez ambitieux, puisque on réintroduit des parties qui ont été enlevées dès la prima édition, puisque la prépublication avait déjà subi une censure, la seconde publication en édition avait subi une deuxième censure, puis ensuite il y a eu les censures des traductions, donc autant dire que ce livre a été quand même moult fois censuré, et là on réintroduisait des parties à partir du manuscrit original, mais ça va plus loin que le manuscrit original, puisque au cours de ces censures, Oscar Wilde a modifié son texte et a rajouté 6 chapitres. Donc là c'est la première fois que le texte est présenté comme cela, c'est-à-dire dans sa version intégrale, non censurée. Ces parties censurées nous apprennent beaucoup à la fois sur l'histoire, bien sûr, et la psychologie des personnages, en particulier sur l'effet que produit Dorian sur les gens. C'est principalement l'objet de la censure, puisqu'en fait, on tourne autour du pot, mais c'est le premier moment où on évoque l'homosexualité dans un roman, dans une Angleterre victorienne extrêmement puritaine, et ça, c'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'un homme puisse éveiller du désir chez des femmes et chez des hommes, ce n'est pas possible. Donc on va rayer toute cette idée, toute cette ambivalence, toute cette sensualité que génère en fait Dorian par cette apparence absolument spectaculaire. Et ça, c'est très intéressant de le remettre, parce qu'on voit que finalement, cet objet de censure au XXIe siècle, on ne la comprend guère. Parce qu'il ne faut pas s'attendre que cette censure ce soit Fifty Shades of Grey. Hein. C'est très très loin d'en être là. Hein. On est vraiment dans quelque chose d'assez contenu, mais en revanche qui très clairement nous en apprend plus sur cet objet de fascination qu'est Dorian Gray. C'est-à-dire combien il peut absolument par sa présence générer un émoi chez toutes les classes sociales, c'est-à-dire chez le marin qui va croiser un soir sur un dock, que dans la bonne société, chez les aristocrates, partout, c'est-à-dire cette beauté, cette femme fatale, parce que c'est quasiment, ou cet homme fatal, on pourrait dire, détruit tout sur son passage par cette beauté et qui retourne tout et chacun.
Alors il faut rappeler néanmoins que l'homosexualité était en effet condamnable à cette époque, et c'est bien pour cela, hélas, que Oscar Wilde, mais des années plus tard, c'est ça qui est intéressant, entre-temps, il fait une carrière à succès au théâtre, avec deux pièces, deux comédies très corrosives, et puis il est rattrapé dans sa propre vie, puisque l'un de ses amants, finalement, révèle à tous et toutes leurs relations qui auraient dû rester cachées, et c'est pour ça qu'il est condamné.
Pas n'importe quel amant, c'est ça qui est terrible, parce qu'il y a comme une dimension prémonitoire dans ce... C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, je réintroduis des parties en graphic novel qui racontent l'histoire du livre, c'est-à-dire déjà l'histoire de sa création qui est très amusante, et puis l'histoire de cette rencontre avec cet homme, Lord Alfred Douglas, un homme d'une beauté, lui aussi, absolument époustouflante, qui lira 9 fois le portrait de Dorian Gray et qui dira « Dorian, c'était moi », qui désire rencontrer l'auteur. Il le fait, et lorsqu'il le fait, les premiers mots d'Oscar Wilde seront « C'est l'incarnation de ma créature, c'est l'incarnation de Dorian Gray. » Il va tout quitter pour cet homme. Il va quitter femme, enfant, tomber fou amoureux de lui, vivre une passion au moins aussi incandescente comme Dorian, qui va se laisser aller dans ses soirées, dans ses Londres inverties et interdites, et il ne passera pas inaperçu, puisqu'entre-temps, il est devenu un auteur à succès, à la fois de théâtre, puis de ce roman. Et cette rumeur qui va l'entourer, et qui va donc entourer Lord Alfred Douglas, va finir par se répercuter sur Oscar Wilde lui-même, puisque c'est le père, en fait, de Lord Alfred Douglas, homme très puissant, d'une famille très riche, qui ne supportera pas que son fils soit compromis par cette rumeur, et donc va insulter Oscar Wilde, qui lui va l'attaquer en diffamation. Et c'est de ce procès que naîtra une série d'autres procès qui le conduira au cachot, en prison, et qui littéralement le détruira, comme ce portrait détruit Dorian Gray.
On va écouter, si vous voulez bien, un extrait de ce texte lu par le comédien de la Comédie française, Denis Podalydès, au moment précisément où Dorian Gray se rend compte que son vœu a été exaucé.
Comme il tournait la poignée de la porte, ses yeux tombèrent sur son portrait peint par Basil Hallward. Il tressaillit d'étonnement. Il entra dans sa chambre, vaguement surpris. Après avoir défait le premier bouton de sa redingote, il parut hésiter. Finalement, il revint sur ses pas, s'arrêta devant le portrait et l'examina. Dans le peu de lumière traversant les rideaux de soie crème, la face lui parut un peu changée. L'expression semblait différente. On eût dit qu'il y avait comme une touche de cruauté dans la bouche. C'était vraiment étrange. Il se tourna et, marchant vers la fenêtre, tira les rideaux. Une brillante clarté emplit la chambre et balaya les ombres fantastiques des coins obscurs où elle flottait. L'étrange expression qu'il avait surprise dans la face y demeurait, plus perceptible encore. La palpitante lumière montrait des lignes de cruauté autour de la bouche, comme si lui-même, après avoir fait quelque horrible chose, les surprenait sur sa face dans un miroir. Il recula, et prenant sur la table une glace ovale entourée de petits amours d'ivoire, un des nombreux présents de Lord Henry, se hâta de se regarder dans ses profondeurs polies. Nulle ligne comme celle-là ne tourmentait l'écarlate de ses lèvres. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il frotta ses yeux, s'approcha plus encore du tableau et l'examina de nouveau. Personne n'y avait touché, certes, et cependant, il était hors de doute que quelque chose y avait été changé. Il ne rêvait pas. La chose était horriblement apparente.
«
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de l'artiste Benjamin Lacombe qui propose une version superbe et enrichie de ses illustrations du grand classique de la littérature mondiale, Le portrait de Dorian Gray, publié en 1890 par l'auteur irlandais, très connu aussi pour ses pièces de théâtre, on l'a dit, Oscar Wilde, un génie magnifié ici dans cette nouvelle édition chez Gallimard, dans la collection Papillon Noir dirigée par notre invité. Alors parlons précisément maintenant de votre travail d'artiste avec peut-être cette question qui se pose aussi dans le texte. Est-ce qu'il faut aimer son modèle pour faire son portrait, Benjamin Lacombe ?
Ah, c'est une bonne question. En tout cas, il faut connaître son modèle. Par exemple, une chose amusante, on me demande, lorsque je fais des dédicaces, parfois certaines personnes, dans notre époque très humble, me demandent de faire leur portrait à ma façon. Et je réponds que je ne peux pas le faire, en fait. C'est impossible parce que pour faire un portrait, il faut connaître la personne. Les portraits, à l'époque, justement, au 19e siècle, c'était des semaines, en fait, de pause. Ça ne se faisait pas en 5 minutes, en 10 minutes, comme ça. Parce qu'en fait, il fallait connaître comment le corps réagit, comment il bouge, comment les yeux se placent, comment les expressions d'un visage. On peut comprendre ça, par exemple, quand on voit, il arrive qu'il y ait des photos de soi où on ne se reconnaît pas, où on a l'impression que c'est pas nous, que ça ne nous ressemble pas. Parce qu'effectivement, une physionomie, c'est très au-delà de traits figés. En fait, c'est une attitude, c'est une façon de bouger. Et donc, je pense que pour faire un bon portrait, il faut connaître et avoir vécu un peu avec la personne dont on va faire le portrait.
Et donc ici, comment avez-vous fait, Benjamin Lacombe, pour justement faire le portrait de Dorian Gray, qui à la fois évidemment est sur la couverture, mais à plusieurs reprises au cours du livre? Est-ce que vous l'avez aimé, ce Dorian Gray, ou comment vous êtes-vous approprié sa personnalité?
Alors, au niveau physionomie, j'ai suivi un peu ce qu'avait dit Oscar Wilde, c'est-à-dire j'ai d'abord suivi la façon dont il le décrit. Et tout de suite, ça m'a fait penser au Tadzio de Moravesinis de Visconti, c'est-à-dire cet effet que produit ce visage, cette attitude, c'est tout, cette blondeur. C'était vraiment l'incarnation pour moi, c'était ce film. Et ensuite, quand j'ai lu ses notes et que j'ai vu effectivement que ce Lord Alfred Douglas, ben je lui ai donné ses traits, c'est-à-dire que j'ai dessiné Lord Alfred Douglas et je lui ai donné les attitudes du Tadzio de Moravesinis pour essayer de recréer quelque part cette image, parce qu'il y a besoin de sentir son personnage pour l'incarner. Il y a besoin effectivement, et bien sûr qu'on passe des mois, des semaines avec ce personnage, bien sûr qu'on l'aime. Moi j'aime profondément Dorian, évidemment, on ne peut pas ne pas l'aimer, ça, c'est pas possible.
Et ici, il me semble, vous avez travaillé un peu différemment de vos livres précédents, en tout cas en ce qui concerne les couleurs. J'avais l'habitude de voir des roses, des violets, des couleurs très vives dans vos albums précédents ou des blancs éclatants. Ici, j'ai l'impression que ce sont des tons plus entre deux, ocre, des verts sombres, des vieux roses. Est-ce que c'est le texte qui vous a inspiré cette nouvelle couleur?
Alors, tout à fait, on est dans une ambiance un peu poisseuse, hein, d'un Londres victorien qui se mélange entre une société aristocratique ou bourgeoise très lumineuse. Donc, il y a ces lumières, il y a cette ses apparats, ses costumes très beaux. Et puis, ce Londres du tout venant qui est beaucoup plus crasseux, sale. Et Dorian, il vit entre les deux mondes, hein, l'ombre, la lumière. Et c'est vrai qu'en termes de touche picturale, j'ai voulu avoir une touche beaucoup plus picturale, beaucoup plus peinture, qui se rapproche des romantiques comme Caspar Friedrich, d'ailleurs, dont je fais certaines citations à l'intérieur du livre, ou des peintres comme Sargent, c'est-à-dire avoir une touche très émotionnelle. C'est-à-dire, tout n'est pas tout à fait défini. On est dans quelque chose d'un peu indéfini, de plus peint et quelque part de plus adulte, qui fait plus part à une forme d'abstraction émotionnelle.
Donc le sujet influence votre manière de peindre ?
Toujours. Ça, pour le coup, oui. Bien sûr, certains diront « Ah, mais on reconnaît à la première seconde mon travail. » C'est normal, c'est un petit peu comme un chanteur, il peut chanter plusieurs registres, on va reconnaître sa voix. Donc ça, c'est le nerf, l'os du dessin. Mais il se mute en fonction de chaque récit, parce que chaque récit demande de s'adapter à lui.
Comme ici, il est question d'un peintre, Basile, c'est difficile de ne pas vous demander, Benjamin Lacombe, si vous partagez certaines des affirmations. Par exemple, Oscar Wilde écrit « Que vous êtes bizarre, vous autres artistes, vous feriez n'importe quoi pour vous faire une réputation, et dès que vous en avez une, on dirait que vous voulez vous en débarrasser. » Alors ?
Ah ben c'est pas faux du tout. Alors là, oui, je dois dire que c'est très très bien vu. Bah, après, c'est un artiste lui-même qui l'écrit, donc il sait de quoi il parle, Oscar Wilde. Lorsqu'il écrit cela, lui-même, il a tout fait pour exister en tant qu'artiste. C'est ça, au départ, on cherche à publier, on cherche à être exposé, on cherche à être vu. Et ça, pour le coup, je le vis aussi. Quand les personnes nous renvoient ce qu'ils voient, on a de cesse que d'aller à contre-courant de la case dans laquelle on essaye de nous enfermer, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser pour définir un artiste. Cet artiste va normalement toujours tout faire pour montrer qu'il n'est pas que cette définition.
Autre question inspirée du texte, est-ce que vous avez déjà refusé d'exposer l'une de vos œuvres ?
Oui, bien sûr, souvent même.
Pourquoi ?
Y a certaines peintures, images dont on n'aime pas fier, qu'on n'aime pas, qu'on aime plus, qu'on aime moins. Il y a aussi, ça peut arriver, des endroits où on n'a pas envie d'être exposé, ou avec d'autres avec lesquels on n'a pas envie d'être exposé non plus. Exposé, dans ce mot, ça dit beaucoup. On s'expose, effectivement. Donc, on a le droit de choisir comment on va le faire.
Et ici, Basile dit plus exactement, le modèle n'est que l'accident, l'occasion ce n'est pas lui que le peintre révèle, c'est bien plutôt le peintre qui sur la toile colorée se révèle lui-même, montre le secret de son âme. Qu'est-ce que vous avez révélé ici, Benjamin Lacombe ?
Alors c'est très amusant parce que cette phrase, il l'a déjà dit plusieurs fois aussi, Oscar Wilde, à d'autres occasions, y compris dans la préface qu'il y a dans ce livre, dans des parties de De Profundis aussi. C'est quelque chose à laquelle il tenait et croyait beaucoup, cette idée de dire que tout portrait peint avec âme est plus un portrait de l'artiste que du sujet lui-même, en fait. Et ça, je pense que c'est très, très vrai. Je pense que tout auteur décrit beaucoup de lui-même, en fait, à travers les personnages qu'il esquisse. Et c'est tout à fait le cas d'Oscar Wilde. Il est, et d'ailleurs, lorsqu'on essayait de le limiter à un seul des personnages, c'est-à-dire Lord Henry ou Dorian, lui-même disait qu'il était les trois à la fois, hein, et qu'il se sentait peut-être plus proche de Basile, finalement, le peintre, que des autres, alors que naturellement, évidemment, moi y compris, on le verrait plus facilement en Lord Henry, cet hédoniste avec la verve piquante. Ça ressemble beaucoup à l'idée qu'on se fait d'Oscar Wilde. Donc oui, bien sûr, je pense qu'on met toujours beaucoup de soi dans une œuvre.
En tout cas, avec beaucoup d'habileté, vous n'avez pas répondu à ma question, Benjamin Lacombe. Je ne veux pas vous forcer la main, de façon, pour en parler un peu trivialement, mais c'est vrai que souvent, on retrouve dans votre travail de la poésie, de la délicatesse, de l'anticonformisme? Est-ce qu'ici encore un peu plus, ou c'est dans la continuité de ce que vous faites?
Bien sûr que c'est dans la continuité. Il y a cette idée du beau, du laid, du monstrueux, des masques qu'on met, qu'on porte. Les personnages sont autant de masques, en fait, pour à la fois dire et cacher, en fait, la nature de ce qu'on est ou de ce qu'on se ressent. Tous les personnages qui m'intéressent et que je portraitise d'une certaine façon, ils ont ce trait en commun d'arriver à essayer de trouver leur place dans un monde et de pas forcément y arriver nécessairement, et de s'en sentir assez différent de peut-être l'image que les autres en ont ou de ce que les gens veulent résumer ce personnage. Ça, en cela, je me sens très très proche de tous ces personnages, Dorian y compris. Il fait qu'une série de mauvais choix, Dorian, mais au final, au départ, effectivement, c'est quelqu'un qui emprunte des mauvais chemins et qui sait plus se dépatouiller au bout d'un moment. Et on peut tous, quelque part, se sentir proche de cela. Qui n'a jamais fait d'erreur ?
À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un nouveau défi. Chaque album, est-ce que c'est le cas ?
Tout à fait, c'est vraiment un nouveau défi. C'est toujours, en plus quand on se confronte à des chefs-d'œuvre absolus de la littérature comme celui-ci, on a grand peur de décevoir, parce que ces textes sont là, n'ont pas besoin des images, ils ont existé, ils sont sublimes. Il ne faut pas les abîmer par une vision grossière qu'on pourrait avoir. Puis il y a tout un tas de choses, par exemple, ne serait-ce que représenter le fameux portrait. Il est décrit sans être décrit, il est absolument sublime. Quelle horreur s'il n'apporte que de la déception à sa vision. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose. Et puis, il y a tous ces limites que peuvent nous apporter la matière. Là, par exemple, je travaille beaucoup sur la matière dans le livre, puisque j'ai voulu montrer la déliquescence du portrait. Donc, j'ai trouvé une méthode à travers des calques, en fait, qui se superposent et qui créent, par les jeux de troubles et de transparence, comme une vibrance, en fait, comme si le portrait s'animait devant nous et effectivement se consumait petit à petit au fur et à mesure qu'on tournait les images, et puis elles deviennent de plus en plus effrayante, hein. Et on est face à cette... Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que cette idée de la représentation, c'est toujours difficile. Et moi, j'ai choisi de jouer sur des choses moins frontales, quoi.
Qu'est-ce que vous répondez à cette phrase d'Oscar Wilde ? Tout art est parfaitement inutile.
C'est ça, c'est dans la préface, oui, du livre, et c'est une préface que j'ai mis, pas en opposition, mais en réponse. J'ai une postface qu'il a écrit lui-même, mais après la prison, après avoir vécu tout un tas de choses, et c'est une partie de la lettre de De Profundis, et où il dit en fait que l'artiste est nourri par ses traumas, et que l'art est quelque part l'une des seules, des seuls endroits du monde où on peut faire changer, évoluer les mentalités, changer définitivement par le sentiment les gens. Donc je pense que l'art n'est absolument pas inutile, je pense que l'art n'a pas vocation à être utile, mais qu'il est indispensable.
Merci beaucoup Benjamin Lacombe d'être venu nous parler si longuement et avec autant de passion de ce texte, Le portrait de Dorian Gray. Je rappelle également qu'il y a une postface de Merlin Holland, le petit-fils d'Oscar Wilde, qui complète une introduction de Xavier Giudicelli, aussi à la traduction de Jean Gattegno. Et enfin, que cette collection Papillon Noir, dans laquelle donc s'inscrit cet ouvrage, cette collection est exposée actuellement à travers quelques-uns, j'imagine, de vos dessins les plus emblématiques de toile même. Ça se passe à Paris, à la galerie Gallimard, dans le 7e arrondissement. Et c'est jusqu'au 9 janvier 2025, ce qui veut dire que tous ceux qui ont la chance d'être dans la région peuvent s'y précipiter pour admirer votre travail. Merci encore.
Un grand merci à vous.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.